Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent, disant, « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. » Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Or, comme elles s'en allaient pour en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais lui répondant dit, En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Au terme de la parabole précédente, il a été parlé du sort de cet homme qui a osé se présenter dans la salle du repas de noces, n'ayant pas de robe de noces. Comment le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces, et lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces ?» Et il eut la bouche fermée. En effet, il ne pouvait absolument rien dire. Il était évident qu'il n'avait pas une robe de noces adéquate, compatible avec la volonté de Dieu. Il n'avait rien à dire, il eut la bouche fermée. Il est dit que le roi lui a dit, « Ami, comment es-tu entré ici ?» Il importe d'établir la différence existante entre un passage comme cela où il est parlé d'un ami, le même terme que nous trouvons quand le Seigneur Jésus dit à Judas Iscariote, « Ami, comment viens-tu livrant ton maître par un baiser ?» Il n'y a aucune relation à établir entre cet autre passage de Jean 15, par exemple, où il est dit « Je ne vous appelle plus esclave, je vous appelle ami, parce que vous êtes ceux auxquels j'ai révélé les pensées de Dieu mon Père. Vous êtes ami, expression d'une tendre, profonde, sincère affection. » Ce qui n'est pas du tout le cas dans une appellation comme celle-ci, « ami ». Comment es-tu entré ici ? C'est simplement l'expression qui définit dans le langage grec une camaraderie sans qu'il y ait du tout de sentiment profondément engagé. Cela, il importe de le souligner parce qu'il y en a quand même qui ont dit « Il a quand même été dit à Judas Iscariote, ami, comment es-tu venu ici ?» Et alors, on présente des sentiments de sympathie pour un homme comme Judas Iscariote qui est allé jusqu'à livrer son maître et pour de l'argent. Il importe donc de réaliser qu'il y a une différence totale entre ce mot « ami » ici dans la parabole que nous venons de voir et puis les termes que le Seigneur emploie en Jean 15 pour parler alors de ce qu'il a fait de ses disciples. « Vous êtes mes amis », c'est là l'expression de l'affection profonde. Et il est dit, il eut la bouche fermée, alors le roi dit aux serviteurs, liez-le pieds et mains, emportez-le, jetez-le dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Là seront les pleurs, on pleurera parce qu'on aura méprisé les invitations de la grâce de Dieu, et il y aura des grincements de dents parce que la situation est définitive, il n'y aura pas moyen de revenir en arrière, il n'y aura pas moyen alors, à ce moment-là, d'accepter une éventuelle invitation de la part de Dieu. C'est trop tard. Alors, les pleurs et les grincements de dents. Cette expression un de nos frères qui nous a visités il y a quelque temps nous a laissé entendre qu'on l'a trouvé sept fois. Exactement six fois dans l'évangile selon Matthieu et une fois dans l'évangile selon Luc. Ce qui est intéressant à considérer, c'est qu'en général, ce sort-là, là où seront les pleurs et les grincements de dents, ce sort-là est presque toujours marqué comme étant le sort des méchants. La première fois que nous lisons ce passage, c'est en Matthieu 8, le verset 12e. Au verset 11 du chapitre 8, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et s'assiéront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. La seconde fois au chapitre 13e. Au chapitre 13e, au verset 42, il nous est dit, au verset 41, en rapport avec la parabole considérée l'année passée, la parabole de l'ivraie, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils cueilleront son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et c'est là le sort de ceux qui commettent l'iniquité, qui sont appelés les fils du méchant. Livrés, dit le Seigneur, ce sont les fils du méchant. Troisième passage, au verset 50 du même chapitre. Il est parlé de la dernière des paraboles du chapitre 13, la parabole de la seine jetée dans la mer. Alors, il y aura des bons poissons, il y aura des poissons mauvais. Verset 49, il en sera de même à la consommation du siècle, les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents, sera là le sort des méchants. Et le quatrième passage, au chapitre 22, dans la parabole considérée ce matin, il nous est dit ceci, c'est-à-dire cet après-midi, au chapitre 22, nous avons alors le sort réservé à cet homme qui s'est trouvé là sans avoir une robe de noces. Il est dit, jetez-le dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Et au chapitre 24e, au verset 51, au chapitre... Oui, le dernier verset du chapitre 24, il est parlé d'un méchant esclave. Il est dit, il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Un sixième passage, dans notre chapitre 25, au verset 30e, où il est parlé également d'un esclave méchant et paresseux. Appelez l'esclave inutile au verset 30, jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Voilà pour ce qui est de l'évangile selon Matthieu, donc un jugement terrible est réservé aux méchants. Et l'homme venu dans la salle des noces, n'ayant pas une robe de noces prescrite par le roi lui-même, eh bien, il est considéré comme un méchant. Son sort est celui du méchant ou des méchants. Alors, enfin, au chapitre 13 de l'Évangile selon Luc, au verset 28, nous avons ces mots en rapport avec les ouvriers d'iniquité. Il dira, verset 27, « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Là seront les pleurs et les grincements de dents quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous jetez dehors. Ce n'est pas sans raison que l'Esprit de Dieu nous parle à une septuple reprise d'un tel jugement. Un jugement irrévocable, un jugement définitif. Voilà pourquoi il est parlé des pleurs. On pleure parce qu'on grince des dents, parce qu'il n'y a plus la moindre possibilité de revenir en arrière et de changer d'opinion à l'égard des invitations faites par Dieu lui-même. Et cette pensée-là, de ce jugement solennel, doit aussi nous frapper, c'est cela qui atteindra certainement celui qui aujourd'hui refuse les appels de la grâce de Dieu. Dans le cantique, nous avons chanté tout à l'heure un cantique d'appel. Il y a là un appel, ce n'est pas sans raison que ce cantique a été chanté et il doit nous parler à tous. Quelqu'un qui n'aurait pas l'assurance de son salut ici même en ce moment doit être touché par une invitation telle que celle qui a été chantée tout à l'heure. Alors au chapitre 25e, nous avons à nouveau et pour une dernière fois l'évangile, le royaume des cieux mentionné. On l'a dit hier, le royaume des cieux est donc un royaume à la tête duquel il y a un roi, et ce roi pour le moment est caché dans les cieux. C'est donc le royaume des cieux, un état de choses où le roi est caché dans les cieux, d'où l'expression « le royaume en mystère » en Matthieu 13, et c'est le temps pendant lequel ceux qui ont à cœur le témoignage du Seigneur, eh bien, plaisent au Seigneur, cherchent à lui être en honneur, à le glorifier, à faire ce qu'est selon sa volonté. C'est le temps, un temps aujourd'hui encore, ce royaume des cieux, c'est le temps où sur la terre cheminent ceux qui sont, par la grâce de Dieu, ses enfants, mais qui aussi sont des sujets de ce royaume. Et comme tels, ils ont à marcher selon l'autorité de celui qui est le roi. Et pour une dernière fois, une dixième fois, dans cet évangile selon Matthieu, parce qu'on l'a dit aussi hier, c'est dans ce seul évangile que nous trouvons l'expression « le royaume des cieux ». Nous ne la trouvons pas ailleurs. On a cité l'exemple de Matthieu 4. Le Seigneur entre dans son ministère. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et il dit « repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Même scène, en Marc 1, qu'est-ce qu'il est dit ? Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Il n'est plus parlé du royaume des cieux dans les évangiles selon Marc et selon Luc, évidemment pas selon Jean. Alors, une fois encore, le royaume des cieux est mentionné par notre Seigneur. Il sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Elles sont donc sorties un jour. Et quelle fut la raison de leur sortie ? Éclairer le voyage, la venue, l'arrivée de l'époux. Elles ont pris leur lampe, elles sortirent à la rencontre de l'époux. Et en effet, un jour, l'évangile de la grâce de Dieu a été, selon le livre des Actes des Apôtres, proclamé et on est sorti. Les uns sont sortis du judaïsme, les autres sont sortis du paganisme pour répondre aux appels de la grâce de Dieu, devenir ainsi des chrétiens et comme chrétiens ayant un témoignage précis à rendre à la gloire de Dieu. Ces 10 vierges sont sorties, comme il a été donné au début du christianisme aux croyants de sortir du judaïsme et de sortir du paganisme, devenant ainsi des chrétiens et appartenant à une autre sphère que celle de cette terre, à la sphère du ciel. Le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lance, sortir à la rencontre de l'époux. Mais voici que cet état de choses heureux du début du christianisme n'a pas duré bien longtemps. Il faut une précision dans l'énoncé de cette parabole. Verset 2, 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Il y a eu donc des vierges prudentes, image des croyants ayant réellement la vie de Dieu et sachant qu'ils avaient la vie de Dieu pour rendre un témoignage lumineux. Un témoignage à la gloire de celui qui est lumière et amour. Ce sont là la part des saints vierges prudentes. Mais il y a aussi les vierges folles qui, dans leur lampe, n'avaient pas d'huile, donc ne pouvaient nullement éclairer. Si l'on n'a pas la vie de Dieu, on ne peut pas rendre un témoignage clair et lumineux à la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait de l'huile dans les lampes. L'huile, symbole constant du Saint-Esprit, si nous n'avons pas la vie de Dieu, qui est en fait produite en nous par l'action du Saint-Esprit, il n'est pas possible de rendre témoignage au notre Seigneur dans le sens de la lumière qui lui éclairant notre Seigneur, et plus spécialement, selon l'enseignement de la parabole, éclairant son arrivée sur la terre, éclairant sa venue, la venue de notre Seigneur bien-aimé.
Quand on lit les chapitres 24 et 25 de l'Évangile selon Matthieu, il y a comme au cœur de ces chapitres, à partir du verset 32 du chapitre 24 jusqu'au verset 30 du chapitre 25, un sujet qui est présenté, c'est notre responsabilité, la responsabilité des disciples pendant l'absence de leur maître, pendant l'absence du Seigneur, en l'attendant. Et au chapitre 24, il est question au début d'une attente continuelle, permanente. Et puis au verset 44, quand il est question de l'esclave que le maître établit, nous avons là une responsabilité que nous avons chacun, qui est commune à tous, être des esclaves qui travaillent pour le maître en l'attendant. Et puis ici, au chapitre 25, dans cette parabole des 10 vierges, nous avons la responsabilité individuelle. Chaque vierge est responsable pour elle-même d'avoir de l'huile dans sa lampe. Chaque vierge est responsable pour elle-même. Et puis, ensuite, il y a la responsabilité en fonction de sa capacité, ce que le Seigneur a confié à chacun. Il nous a donné chacun quelque chose à partir du verset 14, dans la dernière parabole qui est présentée là, et nous sommes responsables en l'attendant de travailler en fonction de ce qu'il nous a donné. On peut dire aussi que dans le chapitre 25, cette parabole des 10 vierges, c'est un peu comme la venue du Seigneur va agir vis-à-vis de nous pour mettre en lumière ce que nous sommes, pour nous tester, si on peut dire. Et là, la venue du Seigneur va tester notre profession. Toutes les vierges étaient habillées pareil, toutes les vierges étaient apparemment identiques. Elles avaient toutes une lampe, elles avaient toutes des vaisseaux pour avoir de l'huile, mais il y en avait qui avaient de l'huile et d'autres qui n'en avaient pas. Et dans la chrétienté, si on pose la question ici à n'importe qui, est-ce que tu es chrétien ? Il va dire oui, je suis chrétien. Alors il fait profession d'être chrétien, mais il peut soit avoir la vie, soit ne pas avoir la vie. On a tous l'étiquette de chrétien, il y en a qui ont l'étiquette. Ils n'ont que l'étiquette, ce sont simplement des professants. Puis il y en a d'autres qui sont aussi des chrétiens, et puis qui ont le Seigneur dans leur cœur, ce sont des vrais croyants, ce sont aussi des professants. Nous sommes tous des professants. Si nous disons que nous appartenons au Seigneur, nous sommes des professants. Nous professons que nous appartenons au Seigneur. Et professant que nous appartenons au Seigneur, la venue du Seigneur mettra en lumière si c'est vrai ou si c'est faux. Dans l'autre parabole, ensuite, la venue du Seigneur va tester notre service, va montrer quel était notre service vraiment, pour qui il était. Dans l'image que prend le Seigneur ici de ces noces des 10 vierges, il fait allusion à quelque chose qui se passait en Israël. Et ça se passe encore actuellement en Israël. Il y a plus de 10 ans, nous étions en Israël et on a eu l'occasion d'apercevoir un mariage. Et on a vu tout d'un coup l'époux qui s'en allait entouré de tous ses amis. Et puis il y avait des jeunes filles avec des lampes, des bougies. Et tout le monde chantait et tout le monde était heureux. Dans un mariage juif, il y avait d'abord la période des fiançailles. Et puis il y avait la cérémonie des vœux dans la maison des parents de l'épouse. Et on présentait l'épouse parée à l'époux. Et sortant de la maison des parents de l'épouse, on allait vers la maison de l'époux, dans la maison du festin, et dans ce trajet, il y avait tous les amis qui étaient là, invités à la noce, et puis il y avait aussi toutes les vierges, des jeunes filles avec des lampes qui faisaient un cortège et qui chantaient, et qui étaient tout un ensemble dans la soirée qui arrivait, un ensemble lumineux qui montait, allant vers la maison où il y allait avoir le festin. Et on rentrait dans le festin, Et puis tous les amis, tout le monde s'installait, et c'était les noces qui commençaient. Et là, le Seigneur fait allusion à cette chose-là, et l'époux, eh bien, il devait venir chercher son épouse, et puis le temps passe, et tout le monde s'est endormi. Et puis, au moment de partir, quand ils se sont levés, eh bien, il y a eu du temps qui s'est passé, le temps nécessaire pour montrer que dans certaines lampes, dans certaines torches, certaines dans leur vaisseau, je veux dire, avaient de l'huile et d'autres n'en avaient pas pour ranimer la flamme. Et à ce moment-là, celles qui n'avaient pas d'huile, elles se sont tournées vers les hommes pour trouver la solution à leurs problèmes, au lieu de se tourner vers Dieu. Parce qu'en fait, pour avoir de l'huile, pour avoir la vie, ce qu'il faut, c'est se tourner vers Dieu et non pas se tourner vers les solutions que les hommes proposent, vers la philosophie des hommes, vers la manière dont les hommes veulent résoudre le problème. Pour avoir de l'huile, pour être vraiment au Seigneur, c'est vers le Seigneur qu'il faut se tourner.
Servir et attendre, nous avons déjà fait allusion à ce verset de la première épître aux Thessaloniciens. Il s'était tourné des idoles vers Dieu pour servir et pour attendre des cieux son Fils. Donc bien, nous avons dans ces paraboles qui se suivent, ces enseignements, les deux aspects. Le service qui sera testé, comme on vient de l'entendre, et l'attente. Et l'attente a, historiquement, nous savons que dans l'Église, eh bien, cette vérité s'est perdue. Elle s'assoupire toute. Celle qui avait la vie, celle qui ne l'avait pas. Celle qui avait de l'huile et celle qui n'en avait pas. C'est le sommeil général. Et dans l'histoire de l'Église, on fait souvent allusion au cri de minuit. Voici l'époux, nous savons qu'il a retenti. Le moment historique étant à peu près le milieu du siècle dernier, ou même avant, les années 1820, 25, 30, cette vérité du retour imminent du Seigneur s'est de nouveau fait entendre. On s'est occupé, nos frères, de cette époque-là, et dans d'autres milieux aussi, ces temps appelés à juste titre les temps du réveil, ont été caractérisés par ce cri « l'époux vient, le Seigneur vient ». Et il n'y a rien de plus stimulant pour la vie chrétienne, parce que ce retour du Seigneur, c'est précisément le test. Il va falloir rendre des comptes. Le moment qui n'est pas connu exactement fait que il faut être prêt à tout instant. L'huile doit être là en permanence. Et donc, si l'huile n'était pas là, il fallait l'acheter. Dans sa grâce, Dieu a prolongé ce temps pendant lequel on peut se procurer cette huile en se tournant, non pas vers les hommes, comme on vient de l'entendre, mais vers Dieu qui la donne. Lui qui donne le Saint-Esprit, dont l'huile est toujours l'image. Alors, il y a ces cinq vierges folles, cinq vierges sages, cinq étant le chiffre de la responsabilité de l'homme, la faiblesse de l'homme, comme on l'a à travers l'Écriture. Et on peut se référer aussi à propos de cette coutume dont on a parlé au psaume 45, où il est parlé des filles de rois qui ont été parmi tes dames d'honneur. Enfin, on dit bien aujourd'hui aussi les demoiselles d'honneur, ces vierges, ces jeunes filles qui accompagnent, qui doivent accompagner l'époux. Nous avons donc là cette préparation du cœur qui doit être là, l'époux vient, ce sentiment qui doit nous habiter, nous autres, enfants de Dieu. Sentiment que nous aurons à rendre compte de notre service, mais que nous avons aussi une personne qui vient et qui désire trouver, quand il viendra, des cœurs qui soient prêts, qui l'attendent. Alors, ça a un double effet, n'est-ce pas, sur nos cœurs. D'abord, nous sépare d'un monde sur lequel le jugement va tomber. La venue du Seigneur mettra fin au temps de la grâce. Donc, c'est un temps où toutes nos activités, tout ce que nous pouvons poursuivre, prendra fin. Il est donc capital de bien employer le temps qui peut nous être encore allouée jusqu'au retour du Seigneur. Puis aussi, cela nous stimule quant à l'Évangile, pour avertir ceux qui ne le connaissent pas. Tournez-vous vers le Seigneur, il vient. Et quand il sera venu, et ce sera trop tard pour se tourner vers lui. Alors nous avons dans le chapitre 24 une comparaison qui se trouve encore dans d'autres passages. C'est celle du voleur, verset 43 du chapitre 24. Le Seigneur vient de deux manières, ou comme l'époux attendu, celui que l'on aime, ou bien comme le voleur. Et sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il eût veillé. On trouve cela dans d'autres passages, on le trouve en 1 Thessaloniciens 5, par exemple. Et comprenons bien la menace, n'est-ce pas? Le voleur a trois caractères. Il est inattendu, il vient quand on ne s'y attend pas, on ne sait pas. Il est indésirable. Et en troisième lieu, il dépouille. Il vient pour vous ravir quelque chose de précieux. Alors, c'est devenu inattendu. On est pris par surprise. C'est ce qui caractérise ces vierges. Puis, indésirable. Ah, les affections ne sont pas là. C'est quelque chose qui va mettre fin à nos joies terrestres, à notre bien-être, à nos occupations, à nos convoitises en un mot. Alors la venue du Seigneur n'est pas désirée. Et enfin, elle dépouille, elle enlève tout, on perd tout, et il faut frapper alors à la porte, ouvre-nous, je ne vous connais pas.
L'accent est donc mis sur la manière d'attendre le Seigneur. On ne trouve pas l'épouse dans ce paragraphe. On ne trouve pas l'épouse qui va voir le Seigneur d'un moment à l'autre. Mais, de manière générale, la manière d'attendre le Seigneur depuis le commencement. Il est dit, elles sont sorties au commencement du judaïsme d'abord et du paganisme. Le Seigneur a réveillé des âmes et il est bien clair que ces âmes attendaient le Seigneur chaque jour, à tel point que Paul devra parler aux Thessaloniciens de la nécessité pour plusieurs de continuer à travailler parce qu'ils avaient abandonné leur travail pensant que le Seigneur devait arriver d'un moment à l'autre. Donc, une responsabilité qui incombait à la fois d'attendre le Seigneur et de faire ses affaires. Un cher frère en France qui était paysan disait, « Eh bien, j'étais sûr que le Seigneur vient demain. J'ensemencerai encore mon champ aujourd'hui. J'aurais continué à travailler convenablement, s'acquitter de ses activités, de ses devoirs, comme si le Seigneur devait encore attendre longtemps. Or, il allait venir le lendemain. » Attendre le Seigneur, je ne peux plus me rappeler de la ville aux États-Unis, mais il y a un jet d'eau chaude, qui jaillit depuis des siècles déjà, et on l'appelle le témoin fidèle. C'est une illustration qu'on a souvent prise du croyant qui attend fidèlement le Seigneur. L'eau continue toujours à sortir de terre, à sourdre de la terre de la même manière, depuis des siècles. Le témoin fidèle. Tandis que le mal a été, hélas, bientôt établi, et pas d'une manière visible dans ce que l'on disait, mais dans le verset 48 du chapitre précédent, le serviteur qui est méchant, voyez, méchant serviteur, méchant esclave, celui dont le cœur est partagé, il a dit dans son cœur. C'est dans son cœur que le mal a commencé à percer, à se manifester. Mon maître tarde à venir. Et par conséquent, à cause de ce sentiment, toutes les manifestations du mal se sont présentées. On a dit que la venue du Seigneur se lie à toutes les autres. Elle est comme le pivot central de toutes les autres vérités qui tournent autour d'elle, comme la bague d'un central, d'un roulement à billes. C'est autour d'elle que toutes les autres vérités. Il n'y a pas de vérité indépendante de celle de la venue du Seigneur. Elle influence, elle donne son caractère à toutes les vérités. Mon maître tarde à venir. Pour Paul, il attendait le Seigneur chaque jour et il devait se plaindre de quelqu'un, devait mentionner le nom de quelqu'un dont le cœur était devenu, si vous voulez, entre guillemets, méchant. C'est-à-dire que Démas avait aimé le présent siècle mauvais. On ne pouvait plus dire, on ne pouvait pas dire que Démas soit un ennemi de Christ, mais un ennemi de la croix de Christ. Et Paul dira dans l'Épître aux Philippiens, je le dis en pleurant. Nos chers devanciers, chers amis, au siècle dernier, ont connu l'effet de cette vérité, sont sortis, comme au commencement, nous avons deux fois l'expression, au verset premier, elles prirent leur lampe et sortirent. Et au verset 6, voici l'époux sortait de sa rencontre. Le verbe sortir, l'impératif sortir, implique donc un effort à faire, une séparation à consentir à l'égard de l'environnement dans lequel on se trouve jusque-là. La première chose qui s'est passée, c'est dans l'Église du commencement. Elles sont sorties. Les croyants, aussi bien dans les assemblées juives que dans les assemblées gentilles, par l'effet du ministère de l'apôtre, attendaient le Seigneur. Nous l'avons entendu il y a quelques instants, notamment la première épître aux Thessaloniciens. Ils avaient été sauvés pour servir le Seigneur et pour attendre des cieux son Fils. Premier cas, c'est donc au début, dans le début du christianisme. Le deuxième cas, c'est au temps du Moyen-Âge, au verset 5. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes. Un peu à la fois, l'assoupissement les a gagnées et toutes les vierges se sont endormies, aussi bien les sages que les folles. Il y a eu donc un temps où le Seigneur n'était plus attendu. Et enfin, au siècle dernier, la mention énergique au verset 6, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Et ce cri s'est fait entendre, non pas lors de la Réformation. La Réformation n'a pas remis en lumière les vérités relatives au retour du Seigneur. Il y avait beaucoup trop de choses à faire, le Seigneur n'a pas donné cette charge à Luther et à ses contemporains, ou à ceux qui ont travaillé avec lui, mais ils avaient à présenter la vérité essentielle, fondamentale, de la justification par la foi. Le fait que le Seigneur venait ne les a pas concernés, ne les a pas en quelque sorte concernés, il y a un autre mot qui nous dit conditionnés, n'ont pas été conditionnés par cette venue de la venue du Seigneur. Mais au siècle dernier, tout à coup, dans des grandes réunions comme celle-ci, où un public se réunissait pour entendre la parole de Dieu, on a découvert tout à coup que le Seigneur venait, que c'était une vérité actuelle. On ne l'avait plus pratiquée, on l'avait perdu de vue. On peut se rendre compte, dans une réunion comme celle-ci, si c'était pour la première fois que nous lisions, par exemple, en Corinthiens 15, « Voici, je vous révèle un secret. Nous ne nous endormirons pas tous. » Mais le Seigneur vient et nous allons être changés. Si nous l'entendions pour la première fois, on se rend compte de l'effet qu'a produit cette prédication. Il paraît les larmes coulaient de tous les yeux. Il y avait une émotion indescriptible dans l'assistance. Et que de choses on pourrait rapporter de ce qu'on lit, de ce temps-là. Des gens riches vendaient leur collection de tableaux, attendaient le Seigneur, vivaient simplement, renonçaient à tout ce qui les mettait en évidence dans la civilisation, dans la génération où ils vivaient. Même bien de nos frères sont dans ce cas, ont accepté de vivre pauvrement, se sont mis au service du Seigneur, abandonnant des situations lucratives et des positions de première valeur. Le Seigneur venait, il l'attendait d'un jour à l'autre, c'était une réalité vivante. Il y a 150 ans au moins de cela. J.N.D. écrit, je vais encore dire cela si on permet, en 1873 pour les Français, 1873. Il écrit une lettre au retour des États-Unis et il dit « Hélas, je suis obligé de constater que l'attente du Seigneur fait défaut et que le réveil qui a commencé, voilà, 50 ans, hélas, il a perdu de son élan. Et tout ce qui a été confié à l'homme, nous allons manifester de la même manière que nous sommes incapables. Nous sommes malheureusement marqués par cette infirmité de perdre ce que le Seigneur nous a confié. » Et je demande au Seigneur, n'est-il de hâter sa venue avant que le témoignage soit frappé par ce mal mortel, 1873. Et nous avons demandé à nos frères, en son temps, si c'était une disposition qui avait été voulue, de faire reparaître cette lettre en 1973, le même mois, au mois de mars. Et ils ont dit non, c'est comme cela que le Seigneur a disposé les choses. Nous avons fait paraître cette lettre sans intention particulière de la faire, de la présenter exactement un siècle après qu'elle avait été écrite. Et s'il y a encore un témoignage aujourd'hui, si quelques âmes attendent encore le Seigneur, c'est bien un effet de sa grâce, car jamais un témoignage n'a duré plus d'environ 100 ans. Le temps d'un témoignage fidèle n'a pas excédé 100 ans. On peut chercher dans l'histoire d'Israël, on peut chercher dans l'histoire ecclésiastique de l'Église, c'est la même chose. Combien de temps s'est-il écoulé entre le jour où la gloire est descendue dans le temple au jour de Salomon et le jour où Israël ne savait plus qui était l'Éternel? Qui est l'Éternel? C'est le Sebaal ou qui est Elohim? Ou c'est l'Éternel? Ils ne le savent plus. Il y a combien de siècles depuis entre les deux faits? Il y a juste un siècle. Et on ne sait déjà plus qui est l'Éternel. Évidemment, on est sur le terrain de la loi, le terrain des choses d'Israël, mais il en est ainsi. Nous n'avons pas été à même de garder ce que Dieu nous a confié. Si même nous parlons encore de cette vérité, quel est l'effet produit par elle dans notre vie? Je le dis d'abord pour moi-même.
Quelqu'un indique que l'histoire apprend que nous n'apprenons rien de l'histoire. L'histoire se répète toujours. Le mouvement dont notre frère vient de parler s'appelait le réveil. Mais qu'est-ce qui est resté du réveil du siècle passé? Il y a un lien avec cette parabole-ci, avec la parabole du chapitre 22. Nous avons vu, en rapport avec Luc 14, qu'il y avait trois choses qui retenait des gens pour venir aux noces. Ces trois choses sont les biens terrestres, le travail, la carrière dans ce monde, ou bien le mariage. J'ai épousé une femme. On peut dire, maintenant, dans nos temps, j'ai pris une femme sans se marier. C'est encore beaucoup plus mauvais. Mais les choses en lui-même sont bonnes, les choses que Dieu nous a données pour être de bons rentmeesters, pour les gouverner pour Dieu, pour le Seigneur. Nous avons aussi notre travail, et il faut bien travailler. Et aussi le mariage est quelque chose donné par Dieu lui-même. Mais ces bonnes choses peuvent être nous retenir de venir aux noces. Et nous avons fait un appel aux jeunes gens, si peut-être ces choses le retiennent, de donner leur cœur au Seigneur. Mais ces mêmes choses peuvent nous retenir d'être vigilants, de veiller, d'attendre le Seigneur Jésus. Ces choses graves que nous pouvons perdre de vue, cette espérance bienheureuse de la venue du Seigneur Jésus. Et ça commence dans notre cœur, comme nous avons lu dans le chapitre précédent. Quelqu'un qui dit dans son cœur, « Mon maître tarde à venir. » Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Ce sont les choses visibles qui prennent une grande place, les biens terrestres, notre travail, notre carrière, dans ce monde, notre mariage ou bien un lien mauvais à ce rapport. Ah, ce sont des choses graves. Examinons notre propre cœur. S'il y a toujours ce même amour, le premier amour pour le Seigneur Jésus. J'ai devant moi l'Épître aux Éphésiens, l'Assemblée avec les vérités les plus élevées. Mais à cette Assemblée, l'Esprit de Dieu doit dire, réveille-toi qui dors et relève-toi d'entre les morts et le Christ luira sur toi. C'est un message pour les chrétiens, pour vous, pour moi. Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Aussi les filles sages, prudentes, s'étaient endormies. Et l'histoire se répète. Après le réveil du siècle passé, nous sommes toujours en danger d'endormir. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, et quelle promesse! Le Christ luira sur toi. »
Il est bien clair que, on a entendu raconter à quelques moments, le repas de noces a lieu la nuit. En raison de la chaleur du jour, ce ne serait pas supportable, de sorte que c'est une cérémonie qui se déroule la nuit. Or, remarquons bien, tout ce récit se déroule, se passe dans l'espace d'une nuit. Et en peu de temps, les vierges sages qui ont été réveillées, ce sont celles qui tout à coup voient le Seigneur.
L'expression « comme l'époux tardait » parle à nos cœurs. Notre cher frère vient de dire que cette espérance du retour du Seigneur doit être entretenue et cultivée dans notre cœur, chacun de nous personnellement. Alors, voici qu'il est dit « comme l'époux tardait ». N'est-ce pas une pensée qui peut naître dans nos cœurs? Nous disons « oh, l'époux tarde, quand viendra-t-il? On s'endort ». C'était le raisonnement des vierges, comme l'époux tardait. Alors, elles se sont endormies. Quand Dieu parle du retour du Seigneur, comme par exemple, il peut y avoir du retardement. Et quand il se sert de son serviteur, l'apôtre Pierre, eh bien, il peut dire, par la bouche de l'apôtre Pierre, il n'y a pas de retardement en ce qui concerne la promesse. Dieu veut simplement que chacun vienne à la repentance, vienne à lui, mais quant à l'espérance du retour du Seigneur, il n'y a pas de retardement. Voilà ce que Dieu dit. Il n'y a pas de retardement. Celui qui vient, viendra, il viendra sans tarder. Il n'y a donc aucune contradiction avec notre passage de la parabole des vierges, comme l'époux tardait. Qu'est-ce qui dit l'époux tardait? C'est pas l'époux, c'est pas le Seigneur, c'est pas Dieu. C'est dans le cœur de ces vierges qu'est née cette pensée. L'époux tarde, et puis on ne l'attend plus, et on s'endort. Mais quand Dieu en parle, il dit, celui qui vient viendra, et il ne tardera pas, ou bien il n'y a pas de retardement.
Et juste avant le verset cité dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, on a le raisonnement des incrédules, les moqueurs même qui viennent selon leur propre convoitise. C'est donc 2 Pierre chapitre 3, verset 4. Où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création. On peut dire, mais voilà, il y a 2000 ans que le Seigneur a fait cette promesse, qu'il a dit « je viens bientôt » et il n'est toujours pas venu. Et alors les moqueurs sourient et disent « vous vous bercez d'une illusion, vous abandonnez les choses présentes pour un avenir qui ne se produira jamais. Où est la promesse de sa venue ?» Ce sont les moqueurs qui raisonnent ainsi. Mais les vierges folles font dans leur cœur le même raisonnement. Alors il y a comme la réponse dans le verset 9 du même chapitre. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Il est bon peut-être aussi de lire un verset dans l'Épître aux Romains au chapitre 13. Lisons-le comme un avertissement adressé à chacun de nous. Verset 11 du chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Et encore ceci, connaissant le temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Alors les exhortations morales en relation avec cette promesse qui va s'accomplir Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme de jour, non point en orgie, en ivrognerie, etc.
Le temps passé par Jacob pour obtenir la femme qu'il aimait a duré 7 ans. Et nous lisons ce passage pour montrer que c'était une affaire de cœur pour lui. Ce sont des années qui peuvent paraître longues, mais elles furent à ses yeux comme peu de jours. Mais Dieu nous donne la réponse, le motif, parce qu'il aimait Rachel. Le fait qu'il l'aimait, le temps lui a paru court dans le service qu'il avait à rendre pour elle. Nous avons donc deux choses dans l'épître aux Thessaloniciens, la seconde épître. Nous n'avons pas à nous laisser égarer par tous les raisonnements des hommes et toutes les inventions de dates ou d'événements plus ou moins vrais, passés ou actuels ou futurs. Nous avons deux choses devant nous. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue du ciel, c'est-à-dire sa parousie, le fait qu'il descend du ciel pour nous enlever de la scène présente. C'est un événement qui concerne les croyants, qui concerne l'Église et qui ne concerne pas le monde. Le monde, sans doute, sera étranger, tout à fait, à cette venue qui a lieu dans les airs. Le Seigneur descend dans les airs, il nous appelle là pour nous recueillir, nos bien-aimés ressuscités, nous-mêmes changés pour aller au ciel. Il y a ensuite un autre aspect de cette venue, nous le savons bien, c'est l'épiphanie du Seigneur, la manifestation publique du Seigneur. Tout œil le verra dans ce moment-là. Et le monde, dit JND, ne verra pas le Seigneur sans nous. C'est une phrase un peu, disons, condensée, mais cela veut dire que le monde ne verra pas le Seigneur revenir du ciel sans que nous soyons avec lui. Et 1 Thessaloniciens 4 nous montre qu'avant de revenir, nous avons d'abord été enlevés avec le Seigneur. Le monde ne verra pas le Seigneur sans nous. Le monde n'a plus vu le Seigneur depuis la croix. Et le Seigneur est parti au ciel en présence des siens. Il n'y a pas eu d'autre témoignage public que celui laissé aux disciples peu nombreux qui l'ont vu partir au ciel. Et le Seigneur a dit par les anges, deux hommes vêtus de blanc, pourquoi regardez-vous ainsi vers le ciel? Pourquoi devait-il cesser de regarder vers le ciel? Or, nous sommes exhortés à regarder au ciel, à regarder le Seigneur, à considérer le ciel, où se trouve le Seigneur. Nous voyons Jésus qui a été fait un peu moins que les anges couronnés de gloire et d'honneur. Paul le voyait constamment, il était le but de sa vie. Pourquoi les anges, disent-ils, les hommes vêtus de blanc, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel? Mais ce n'est pas cela que vous avez à faire. Parce qu'ils se tenaient toujours sur le terrain où le Seigneur va se manifester sur la terre. C'est le résidu juif, fidèle de ce jour-là, et ils doivent attendre quelque chose de meilleur pour eux, c'est-à-dire la venue du Seigneur dans les airs pour enlever son Église. Ils étaient encore, eux, sur le terrain judaïque, et ils attendaient le Seigneur qui allait descendre du ciel pour établir son royaume. Mais ils avaient une espérance bien meilleure à attendre. Vous voyez, sauf que nous avons deux choses devant nous, deux Thessaloniciens. Deux, tout d'abord la venue du Seigneur. Nous vous prions, frère, par la venue du Seigneur. Les Thessaloniciens l'ignoraient, leur raisonnement avait été faussé par les événements qu'ils traversaient, les épreuves, la tribulation. On leur disait, vous voyez, vous n'avez plus à attendre le Seigneur, vous êtes dans le temps de la tribulation, vous avez à attendre son apparition. Il était donc frustré ainsi du bénéfice de l'espérance la plus précieuse qui soit dans la parole. Mais Paul dit, au lieu de vous laisser entraîner dans cette erreur, je vous écris au nom de notre Seigneur, nous vous prions frère par la venue de notre Seigneur. Je prends cet argument comme argument de base. Et ensuite, le deuxième argument est par notre rassemblement auprès de lui. Donc seulement deux choses, la venue du Seigneur pour nous, et par conséquent, notre rassemblement qui va se produire d'un moment à l'autre. Il n'y a pas d'événement à attendre. Les vierges qui sont sorties à sa rencontre et qui l'attendaient, ce sont les mêmes qui le voient, qui sont avec lui. Elles ont maintenu fidèlement cette attente du Seigneur, l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire la figure du Saint-Esprit qui anime la vie que nous avons reçue.
C'est le temps de l'attente. Et cette attente du Seigneur est une attente sanctifiante, comme bien des passages des Épîtres nous le disent. Le Seigneur peut venir aujourd'hui. Chaque matin, nous pouvons dire, peut-être aujourd'hui. Chaque soir, nous pouvons dire, peut-être cette nuit, le Seigneur peut venir. Nous avons entendu tout à l'heure cette pensée de notre frère JND, il y a un siècle, plus d'un siècle. Et le frère anglais nous écrivait, il y a peu de jours, ceci. La plupart de nos assemblées en Angleterre sont devenues fort petites. Mais le Seigneur nous reste fidèle malgré notre faiblesse ressentie ô combien. N'est-ce pas l'analyse que nous pouvons faire aujourd'hui dans les témoignages que nous constituons ici? Faiblesse caractériser tout ce qui est confié à l'homme. Il en est ainsi. L'Église, le témoignage, eh bien, c'est cela, mes amis. Qu'avons-nous à faire dans ce court moment qui nous sépare de sa venue, à attendre le Seigneur, vivre cette attente par le cœur? Me disait un frère, je dois vivre comme si le Seigneur allait venir ce soir, vivre et travailler, et comme si je devais vivre 100 ans. Voyons les chrétiens dans les Thessaloniciens, qui l'attente du Seigneur était si vive qu'ils avaient tout laissé pour l'attendre, qu'ils ne travaillaient plus. Ah, mes amis, attendre le Seigneur, l'attendre, vaquer à nos affaires, travailler pour lui. Et si nous faisons cela dans la pensée que le Seigneur vient et dans la pensée que le Seigneur veut nous trouver lorsqu'il viendra comme son cœur le désire, eh bien, cela peut sanctifier nos jours, nos moments, comme nous l'exprimons dans le cantique bien connu, le cantique 77.
Dans un psaume, le psaume 130, il y a ce verset, psaume 130, verset 6. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin, que les sentinelles n'attendent le matin. Bien sûr, nous sortons un peu ce verset de son contexte. Et pourtant, il y a un peu cet esprit-là pour nous. Une sentinelle qui est là la nuit, qui garde, ce qui lui tarde le plus, c'est que cette garde soit finie et que le matin arrive. Et nous sommes dans un monde de ténèbres, des sentinelles qui sommes des fils de la lumière, et dans ce monde de ténèbres, nous attendons le matin. Et nous attendons le Seigneur qui va arriver le matin. Et en attendant le Seigneur, cela va se traduire dans notre vie par différentes choses. Il me semble que les différentes paraboles que nous avons vues ces jours nous parlent aussi dans ce sens-là. S'il y a quelque chose entre moi et mon frère, un problème, une difficulté, combien de temps je vais attendre pour régler ce problème? C'est aujourd'hui qu'il faut le régler. C'est aujourd'hui qu'il faut peut-être aller vers son frère pour lui demander pardon. C'est aujourd'hui qu'il faut peut-être aussi tout de suite pardonner à son frère. Aujourd'hui, avant que le jour s'arrête, avant que le Seigneur vienne. Je sais bien que si le Seigneur vient nous prendre, nous partirons avec lui. Mais est-ce que si vraiment nous attendons le Seigneur,
nous allons laisser un contentieux entre nous et notre frère. Il faut que ce soit réglé tout de suite. Dans la deuxième parabole qu'on a vue, il s'agissait d'être un esclave qui est appelé pour le travail du maître, s'appuyant sur la parole du maître. Est-ce que c'est demain qu'il faut travailler ? Est-ce que c'est demain qu'il faut saisir l'occasion ? C'est aujourd'hui qu'il faut saisir l'occasion. Dans le passage de l'Épître aux Éphésiens qui a été lu tout à l'heure, aussitôt après, il dit « marcher soigneusement, saisissant l'occasion ou rachetant le temps parce que les jours sont mauvais ». C'est aujourd'hui qu'il faut travailler. Dans la troisième parabole, eh bien, il y a cette invitation qu'il a, venez aux noces. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre à cette invitation. C'est aujourd'hui qu'il faut venir. Ce n'est pas demain, parce que demain il sera peut-être trop tard. Et puis, dans notre parabole, c'est aujourd'hui qu'il faut recevoir personnellement la grâce de Dieu, être prêt tout de suite, être prêt et être prêt dans son cœur à tout moment pour être prêt quand le Maître, quand le Seigneur va venir, quand l'Époux va venir. Et c'est ce qu'on a à la fin de cette parabole, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Et à la fin du ministère public du Seigneur, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, ce sont les dernières paroles du ministère public du Seigneur. Après, il va y avoir les préparatifs de la fête, il va y avoir les moments avec les disciples, la chambre haute, mais les dernières paroles du ministère public du Seigneur, c'est « Veillez donc », Marc 13, verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit ou au chant du coq ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Ce que je vous dis à vous, les disciples qui étaient là, les quelques-uns autour de lui, je le dis, ceux qui étaient autour de lui, eh bien, je le dis à tous. Ça veut dire que je le dis maintenant à nous ici, hein. Je le dis à tous, veillez.
Il est en effet très solennel ce dernier appel du Seigneur à ses disciples réunis, ce dernier appel d'après l'Évangile selon Marc. Veillez donc, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ainsi donc, il est parlé au cours de notre parabole des vierges folles qui dirent aux prudents, donnez-nous de notre huile, nos lampes s'éteignent. Les prudentes répondent, non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous, et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes. Et c'est pendant qu'elles s'en allaient pour en acheter que l'époux vint. Dans l'épître de Jude, on a comme une illustration de l'enseignement de cette parabole. L'épître de Jude nous donne le tableau de très sombres temps dans lesquels nous entrons très sérieusement, progressivement. C'est l'Église, l'histoire de l'Église devenue apostate. Et qu'est-il dit à la fin de cet épître de Jude ? Il est parlé d'hommes, de ceux qui vraiment n'ont pas la vie de Dieu. Il y en aura beaucoup en ces jours-là. Il est dit dans l'épître de Jude, au verset 18, « Il y aura des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes. Ils quittent en fait l'Église de Dieu. Ils forment des partis, ils ont des adeptes. C'est cela, se séparer soi-même. C'est mauvais. Cela est une séparation qui n'est pas du tout sans la pensée de Dieu. » Ils se séparent eux-mêmes, ils sont des hommes naturels, donc ils n'ont pas la vie de Dieu. Et puis il est ajouté, n'ayant pas l'esprit. Ils ont peut-être une lampe, ils ont peut-être l'apparence d'être chrétiens, ils ont une lampe, mais lampe est vide. Il n'y a pas d'huile, ils n'ont pas l'esprit. Alors en contraste avec ces éléments dangereux, il y a cet appel à l'adresse des vrais chrétiens, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant. attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà, chers amis, la pensée de la venue du Seigneur qui est présentée ici comme l'ultime manifestation de cette miséricorde dont nous parlions ce matin, la miséricorde du Seigneur pour la vie éternelle. Ce sera l'ultime manifestation de la miséricorde. Nous n'aurons plus besoin de la miséricorde du Seigneur quand nous serons pris du Seigneur dans la gloire du ciel. Comme le dit si bien l'auteur du Cantique 209, nous n'aurons plus besoin d'une telle miséricorde, nous aurons alors le souvenir de la miséricorde que tu n'as cessé de nous manifester dans les jours d'autrefois. Eh bien, nous attendons la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Chacun sait que dans l'épître de Jude, il est parlé 4 ou 5 fois d'une catégorie de personnes définies ainsi, ceux-là. Ou ceux-ci, ce sont ceux qui n'ont pas la vie de Dieu. Ils ont l'apparence du christianisme, mais ils n'ont pas du tout la vie de Dieu. Et alors, en contraste, 4 fois, sauf erreur, bien-aimé, et ici, la dernière fois, mais vous, bien-aimé, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Une telle parabole que celle de la parabole des 10 vierges nous enseigne et nous montre que nous avons tout d'abord à avoir le Saint-Esprit, autrement dit avoir la vie de Dieu. Ensuite, nous avons à attendre et à veiller. Comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, au début du chapitre 3e, « Sois vigilant ». Voilà les premiers mots adressés à ce vaste système qui devait provenir, qui devait faire suite aux magnifiques travaux des réformateurs. Après leurs travaux, il y eut ce vaste système représenté par ce que l'on appelle le protestantisme. Eh bien, qu'est-il adressé ? Première exhortation à tous ceux qui sont des représentants dans ce fascisme, mais il y a un résidu dans ce fascisme. Il est reconnu, un résidu fidèle. Sois vigilant. Voilà ce que j'ai à te dire tout d'abord. Sois vigilant. C'est-à-dire, veille. Veille. Comme différents passages viennent de nous le rappeler. Les enfants d'Israël, à la fin des jours, sauront ce que c'est que cette attente et cette attente patiente. C'est le psaume 130, vous avez cité tout à l'heure, les sentinelles. Eh bien, dans le psaume 130, eh bien notre frère l'a rappelé, dans ce psaume des cantiques des degrés, il nous est parlé, il y a tout un psaume qui nous est donné là comme étant un appel à la vigilance et à l'attente. Mon âme attend l'Éternel puisque les sentinelles n'attendent le matin. 2 fois, nous avons cette constatation. Le recueil des cantiques des degrés, nous le savons, est une illustration de ce qu'a été la vie du peuple d'Israël sur la terre et de ce que sera la vie d'Israël plus tard, et en particulier d'un résidu du milieu de ce peuple, un résidu fidèle et qui souffrira beaucoup et qui saura ce que c'est que d'attendre et d'attendre encore. Dans le chapitre 18e du livre du prophète Ésaïe, un court chapitre de 7 versets, pas moins de 2 fois, nous avons la définition d'un tel résidu. Elle est touchante. Ésaïe 18 nous dit ceci, verset 2, « Allez, messager rapide, vers une nation répandue loin et ravagée, vers un peuple merveilleux dès ce temps et au-delà, vers une nation qui attend, et qui est foulée aux pieds, de laquelle les rivières ont ravagé le pays. » Et à la fin du chapitre, nous avons les mêmes termes. Le dernier verset nous dit ceci, que ce résidu sera comme une nation qui attend. Elle sera dans l'attente, puis il est ajouté « attend », puis c'est tout. Mais alors, attend qui ? Attend quoi ? Une nation qui attend. Certainement qu'il y a une intention de l'Esprit de Dieu en employant 2 fois ce verbe « attendre » pour définir ce que sera le vrai peuple d'Israël à la fin des jours, représenté par ce résidu qui attendra. Il souffrira beaucoup, il traversera la grande tribulation et il sera amené à attendre et encore à attendre. Attendre qui ? Le Messie, le Libérateur, celui que les pères auront rejeté. attendre quoi ? La délivrance, véritablement la rédemption. Ils attendront la délivrance, c'est-à-dire la venue précisément du Seigneur qui alors les délivrera de toutes leurs souffrances et persécutions et les introduira dans la gloire du règne millénaire, le millénium. Eh bien, avant que cette gloire apparaisse, il nous est dit de ce résidu, c'est une nation qui attend et qui attend, une nation qui attend, attend. Eh bien, nous voyons que les enfants d'Israël, à la fin des jours, seront secs d'attendre, et nous-mêmes, chers amis, témoins de la fin d'une économie, de l'économie de la grâce, voici, qu'ici même, ce soir, une invitation, une exhortation, une sollicitation même nous est adressée pour que nous persévérions dans l'attente du Seigneur. Et même que dans cette attente, nous soyons heureux, vous réjouissant dans l'espérance, dit Romains 12, que ce ne soit pas quelque chose de pénible que d'attendre, en voyant qu'une telle espérance ne se réalise pas. Mais voilà l'apôtre qui vient nous dire, vous réjouissant dans l'espérance, dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Voilà un des enseignements de cette parabole des vierges, certainement.
Un verset dans l'évangile selon Luc pour montrer la position d'Israël bien différente de la nôtre. Dans le début de l'évangile selon Luc, nous avons l'histoire de Siméon. Et il est dit de lui au verset 25, en tournant la page, « Il attendait la consolation d'Israël. » C'est un homme pieux, encore rattaché à l'Ancien Testament. « Il attendait la consolation d'Israël, le Ménahem d'Israël. » Ça veut dire le consolateur que l'Éternel avait proposé dans le prophète Ésaïe, déjà chapitre 40 notamment. « Consoler, consoler mon peuple. » Donc cet homme attendait cette consolation d'Israël, promise dans les prophètes. Un. Et deux, l'Esprit Saint était sur lui, pas en lui. Alors, deux choses. L'Esprit Saint était sur lui pour le diriger, le conduire, mais n'habitait pas en lui. La position d'Israël dans le résidu, et il s'est malaisé d'y voir autre chose que le résidu dans Matthieu 25, parce que c'est impossible d'envisager que ce résidu s'endorme. Les souffrances par lesquelles il va passer seront telles qu'il sera tenu éveillé. Son âme attend le Seigneur plus que le sentinelle n'attend le matin. Deuxièmement, ils n'auront pas d'huile, ils n'auront pas de lampe avec de l'huile. Donc c'est évidemment une image de la chrétienté dont nous faisons partie. Ce n'est pas du tout, l'épouse ici, c'est la chrétienté, et pour demain, ce sera donc un résidu qui attendra le Seigneur sur la scène.
Nous sommes en train de déjà citer, non pas moins de 6 fois, dans ce tout petit psaume, le verbe attendre ou le mot attente. Et la répétition, plus que les sentinelles n'attendent le matin, montre l'ardent désir de cœur, comme dans Ésaïe 18 qui nous a été cité. Un peuple qui attend, attend. Et nous trouvons aussi ce terme dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, ce chapitre glorieux qui envisage tout le plan de Dieu pour nous et en même temps le plein sentiment de notre lien avec les choses terrestres. Il nous est dit que la création a été assujettie, c'est au verset 19, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Bien dans ce petit verset, la vive attente attend. Là aussi, une répétition qui nous fait sentir ce soupir général de la création. Et nous faisons partie de la création, la première création par nos corps. Alors il nous est dit un peu plus loin, et nous aussi, verset 23, qui avons les prémices de l'Esprit. C'est justement l'huile dans la lampe, le Saint-Esprit. L'huile parle toujours du Saint-Esprit. Alors nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Mais nous n'attendons pas seulement la délivrance de notre corps. Nous n'attendons pas seulement un événement qui mettra fin à notre vie terrestre. Nous pouvons bien soupirer, et sans doute il n'y a pas de chrétien qui ne soupire pas en sentant ce que représente aujourd'hui cette marée de corruption qui envahit le monde plus que jamais, ce laisser-aller moral qui nous entoure, être obligé d'élever des familles dans un tel contexte, de nous mouvoir au milieu de personnes autour de nous qui sont des moqueurs ou qui méprisent le Seigneur ou qui se vautrent dans l'immoralité. Il y a un état d'esprit général dans lequel il est impossible qu'un chrétien ne soupire pas attendant la délivrance. Mais c'est pas cette délivrance que nous attendons d'abord, c'est une personne, c'est le Seigneur. Nous n'attendons pas l'événement, mais nous attendons le Seigneur. Et nos affections liées à lui nous font dire, n'est-ce pas, celui comme Pierre l'exprime, que nous n'avons pas vu, mais que nous aimons. Et croyant en lui, n'est-ce pas, nos cœurs s'élèvent vers lui avec amour pour s'écrier, viens, Seigneur Jésus.
Nous attendons le Seigneur. Et cette espérance, elle est aussi consolante. Et ces versets bien connus que nous lisons dans le chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, où le mot « Seigneur » revient si souvent. Car nous disons ceci par la parole du Seigneur. Que nous, les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devançons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, le Seigneur n'envoie pas un ange. Nous disons dans un de nos cantiques, il vient lui-même chercher les siens. Et nos bien-aimés qui goûtent déjà la présence du Seigneur, l'apôtre Paul peut dire, car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Le Seigneur maintenant glorifié, le Seigneur qui vient, nos bien-aimés qui nous ont devancés, que nous pleurons, et nous qui sommes vivants, si le Seigneur venait ce soir, ensemble, nous allons à la rencontre du Seigneur en l'air. Où puisons-nous cette certitude? Dans la parole du Seigneur. Et alors, puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux, c'est-à-dire ceux qui nous ont devancés, avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec qui? Avec le Seigneur. Alors, comment va conclure l'apôtre? Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Quand nous nous rencontrons, bien-aimés, il y a des peines, il y a des souffrances, il y a des deuils. Qu'est-ce que nous nous disons pour nous consoler? Parfois, beaucoup de choses, et nous devenons les consolateurs fâcheux que Job a rencontrés. Si nous disions simplement, frères, sœurs, le Seigneur vient, quelle parole de consolation? Le Seigneur va venir. Quand? Nous l'attendons. Bientôt. C'est la réponse. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Permettez encore un appel maintenant. Ces folles, elles sont appelées par la parole de Dieu par deux attributs. Ces vierges, sont appelées de deux manières. Les unes sont prudentes et les autres folles. C'est grave cela. Et pourtant, c'est ainsi que la parole les désigne. Alors, quelqu'un ici pourra peut-être se poser la question, mais voilà, je viens aux réunions, j'écoute la parole de Dieu, est-ce que j'ai oui ou non de l'huile dans ma lampe? Notre frère a souligné un passage de l'Épître aux Romains sur le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai de l'huile dans ma lampe? Alors, où avons-nous cette certitude que nous possédons le Saint-Esprit? Dans l'Épître aux Romains, cité par notre frère M. Quéclin, l'Esprit, avec un grand E, rend témoignage à notre esprit, avec un petit E, que nous sommes enfants de Dieu. Il y a donc là ce témoignage intérieur que l'Esprit de Dieu donne à celui qui est un enfant de Dieu. Aucun doute, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et partant de là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, nous crions « Abba, Père ». Maintenant, Éphésiens, chapitre 1, verset 13. « Ayant entendu la parole de la vérité », c'est bien le cas de tous ceux qui sont ici ce soir. S'il y a ici une personne qui n'avait jamais entendu la parole de la vérité, ce soir, elle ne peut pas sortir de ce lieu en disant « Je n'ai pas entendu », ayant entendu la parole de la vérité. Première chose. La seconde, l'évangile de votre salut. La seconde, auquel aussi ayant cru. Est-ce votre cas, cher âme? Certains auront entendu et n'auront pas cru. Celui qui a entendu et qui a cru, quelle est la conséquence? Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage. Ainsi, s'il y a ici une âme qui a entendu et qui n'a pas cru, elle n'a pas l'Esprit de Dieu. S'il y a ici une âme qui a entendu et qui a cru, elle possède l'Esprit de Dieu, elle a de l'huile dans sa lampe, et cet Esprit rend témoignage à son esprit qu'elle est un enfant de Dieu. Et elle peut dire en toute confiance, « Seigneur, tu peux venir, je suis à toi. »
Nous arrivons donc au terme de notre réunion, même au terme de nos réunions, et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a accordé ces journées, et par un temps très favorable, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a dit, de ce qu'il nous a enseigné par le moyen de ces diverses paraboles du royaume des cieux. Qu'on nous permette encore une question à propos du passage que notre frère a cité en Romains 8, quand il est parlé des prémices de l'Esprit. Il n'est pas dit que nous avons l'Esprit dans ce passage, nous avons les prémices de l'Esprit. Est-ce que ce n'est pas là une prérogative de Dieu vis-à-vis de l'Église? L'Église, de l'Église, on peut dire, elle a reçu les prémices de l'Esprit, ce qui n'est pas le cas du peuple d'Israël. Plus tard, secondairement, il y aura une nouvelle effusion de l'Esprit selon Ézéchiel 36 pour le peuple d'Israël. Mais pour le temps présent, il y a là, vis-à-vis de l'Église, un don particulier. Il n'est pas seulement dit qu'elle a reçu l'Esprit, mais les prémices de l'Esprit. Vous ne pensez pas qu'il y a une mise en évidence de l'Église, privilège de l'Église par rapport à Israël?
Oh.